qui nous parle. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à être fidèles jusqu'à la mort. Et ils agiront ainsi, pourquoi ? Parce que ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Quand on ne connaît pas le Père, ni le Seigneur, qui seul nous révèle le Père, eh bien, on est opposé au Seigneur. Et comme on ne peut pas toucher le Seigneur, on touche qui ? Ceux qui portent le nom du Seigneur. Ils agiront ainsi, verset 3, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement. Vous voyez, il y a des choses que le Seigneur ne pouvait pas dire tout à fait au commencement quand il enseignait ses disciples. Parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, ce Consolateur qui est le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cette justice, c'est la foi. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, dans votre vie, y a-t-il eu cette conviction de péché qui vous a amené à rechercher le salut et à croire le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Car c'est cela, la foi. C'est le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. On le croit. Que Dieu vous dirige et ayez entièrement en main cette heure que vous allez passer dans sa présence. Dieu notre Père, nous te confions ces bien-aimés et nous te demandons par ton esprit de les guider et de faire ton œuvre dans les cœurs afin que ce soit toi qui scelle cette fin de semaine par ton amour. Amen. Amen. Alors, ne soyez pas déçus. Seulement, il y avait des risques dans ce que je faisais. Et le risque, je pense que les modérateurs l'ont découvert. C'est que si on parle de témoignage, tout de suite quelqu'un va se lever et apporter son témoignage et les autres n'auront rien à dire. Parce qu'on prendra tout le temps. Ça, c'était un risque. Mais ce que je demandais, c'était une réponse très courte. Puis, s'il y en a qui veulent leur témoignage, ils auront l'occasion encore, avant la fin de cette journée, de le donner publiquement ici. On ne force personne. Mais je posais une question. Avez-vous la foi ? Mais une foi qui n'est pas une adhésion intellectuelle à certaines vérités, parce que c'est facile d'admettre qu'il y a un Dieu. et continuer de vivre sans s'en occuper. Au dernier moment, oui. Alors, on demande l'extrême onction dans certaines églises, ou enfin, un moment précis où on fait une confession générale. Et vous savez, c'est pas drôle, hein, d'arriver seulement sur son lit de mort pour faire sa confession générale, c'est un sac qui est rempli, hein. Tandis que si vous vous êtes confessé journellement, au fur et à mesure que vous viviez, parce que vous aviez une foi authentique qui vous ramenait toujours à la sainteté du Seigneur, et que vous marchiez dans la sainteté du Seigneur, vous marchiez dans la lumière. Et quand on marche dans la lumière, qu'est-ce qui nous est révélé? Si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et qu'est-ce qui arrive? Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Parce que justement, quand on marche dans la lumière, on voit tout de suite le péché. Comprenez-vous? Au moment de la conversion, bien souvent, on n'a pas une grande conviction du péché. Elle vient au fur et à mesure. Pierre avait été en contact avec le Seigneur, mais pour qu'il apprenne à se connaître, c'est seulement à la fin de son école avec le Seigneur, après avoir prétendu devant tous les autres que tous les autres pouvaient manquer, mais que lui, il resterait fidèle. Et Jésus lui dit, mon pauvre Pierre, le coq n'aura pas chanté deux fois que toi, tu m'auras renié trois fois. Ça, il ne peut pas l'admettre. Et pourtant, dans cette même nuit, il a renié le Seigneur avec imprécation, après avoir pourtant été inspiré par Dieu pour confesser devant les autres qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il faut apprendre à se connaître. Hein. Alors, mes amis, d'où vient la foi et comment l'obtenir? Le Saint-Esprit, la première œuvre qu'il fait, qu'il opère, c'est de nous convaincre de péché. Et tous les hommes dont nous parlent les Écritures ont passé par cette conviction de péché. Je vous parlerai dans la dernière rencontre cet après-midi, dans l'introduction au culte, de certains hommes qui peuvent nous dire comment ils ont été vraiment sauvés. Pas dans les mêmes lieux, pas de la même manière, mais ils ont eu cette conviction de péché qui les a amenés à la conviction de justice. Dieu nous convainc de péché, mais ensuite il nous montre qu'il y a une œuvre qui est faite pour que nous soyons justifiés. Tandis que les athées et certains sont bien convaincus de péché, mais comme ils ne peuvent rien changer, ils disent il n'y a plus qu'à se suicider. Hein? On est convaincu de péché qu'on ne va pas changer, alors on se suicide. C'est le seul problème, disait Albert Camus, qui compte. Eh bien, non, chers amis. Le Seigneur, il nous convainc de péché, mais pas pour que nous restions à mourir dans notre péché, mais ensuite, il nous convainc qu'il a fait une œuvre de justice, car il est le Dieu juste, et il nous offre sa grâce. Alors, comment, d'où vient la foi, et comment l'obtenir? Eh bien, on l'obtient en allant au Seigneur et en contemplant quelle a été sa vie. Comment est-ce que moi, personnellement aussi, j'ai compris que j'étais un pécheur? On me l'avait dit, et je disais pas non. Mes parents m'avaient élevé dans la crainte de Dieu. Et puis, quand des pasteurs venaient chez nous, eh bien, qui me disaient, alors, Gaston, tu te reconnais pêcheur? Bien sûr que je me reconnais, c'est pêcheur, on me l'avait dit. Tout le monde est pêcheur. Puis on le sait. Mais quand on est élevé par des parents chrétiens qui nous disciplinaient, eh bien, mes amis, on ne tombe pas dans les péchés trop grossiers, hein. Puis on est gardé dans la compagnie des enfants de croyants, plutôt. Alors, ça va pas trop mal, de sorte qu'une conviction de péché, on l'a pas tellement. Mais enfin, on est pécheur. Alors, est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? C'est toujours ce qu'on nous a dit dans nos milieux chrétiens. Jésus est notre sauveur, il est mort sur la croix, il est notre sauveur. Mais au fond, j'avais pas de certitude, j'avais pas d'assurance, jusqu'au jour où, vraiment par la parole, j'ai réalisé que j'étais perdu. Et je vous l'ai dit, j'avais 14 ans, seulement 13 ans et demi. Et c'est la parole qui m'a convaincu que si je devais paraître devant Dieu, j'étais perdu. Et alors, dans ce moment de faillite totale, où j'ai vu, s'il me faut la vie de Jésus pour entrer dans la gloire, je ne l'ai pas. Ma vie n'est pas celle de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que j'aie? Il faudrait que j'aie cette vie, la vie pure, la vie sans tache de Jésus, cette vie sainte. C'est cette vie-là qu'il faut que j'aie. Mais pour que je l'aie, est-ce que je peux avoir deux vies à la fois? Non, il faut que je renonce à ma vie. Et non seulement que j'y renonce, mais que j'accepte que dans la mort de Jésus, ma vie meurt avec lui, en lui. Alors, je dois ensuite, par la foi, me considérer tous les jours comme mort. C'est la seule puissance contre le péché. Se tenir pour mort. Voilà un fumeur, mon grand-père, jusqu'à 70 ans, il était fumeur, invétéré, je vous l'ai déjà dit, et il buvait aussi, pas toujours, mais occasionnellement, mais quand il buvait, eh bien, son vin pouvait être mauvais, puisqu'il courait après ma grand-mère avec une hache. Et puis il fumait tellement qu'il mettait le feu au drap, quitte à brûler la grand-mère, mais qui était une croyante. Et j'étais élevé aussi sur ses genoux, et elle me disait, on m'appelait tonton à ce moment-là, « Tonton, tu sais, grand-papa se donnera au Seigneur. Moi, je ne le verrai pas, mais il se donnera au Seigneur. » Elle est morte, elle est morte, oui, et puis, le jour de l'enterrement, mon grand-père s'est converti. Il a abandonné tous ses amis de bistrot, et puis il n'a pas signé l'abstinence. Il pouvait boire un verre de vin avec ses enfants, dans sa famille, comme ça se fait en Europe, mais il n'est jamais retombé dans l'alcool. Et il a vécu combien de temps? 20 ans. De 70 ans à 90 ans, et j'ai pu assister à sa mort, qui était une mort glorieuse. Il s'est levé tout à coup de son lit, il a tendu les bras, puis son corps est retombé. Il avait vu le Seigneur, c'était splendide de voir son visage absolument rayonnant. Il n'a pas vu la mort, mais il a vu le Seigneur. Et ne me dites pas qu'on ne peut pas changer nos habitudes. Parce que tout le monde disait, le père Amédée, il va mourir, parce qu'il n'allait plus avec ses copains, il n'allait plus, il a témoigné pour eux. Mais il n'est pas mort, il a eu encore 20 ans d'existence. Et Sa passion, c'était de lire la Bible depuis la première page à la dernière. Et quand il avait fini, il recommençait. Parce que, je vous l'ai dit souvent, faire des lectures bibliques tous les jours, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez une connaissance de toute l'Écriture, depuis le commencement à la fin. Mais vous me direz, mais il y a des généalogies, c'est ennuyant, c'est non, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais si vous aviez vécu à ce moment-là, puis que votre nom y soit, vous liriez ça, pour trouver votre nom. Aujourd'hui, quand vous achetez le journal, vous cherchez, vous passez des examens, vous cherchez tout de suite où se trouve votre nom. Et soyez un peu intelligents, soyons intelligents. Nous cherchons bien notre nom, mais c'est parce que nous ne sommes pas concernés, nous ne nous sentons pas concernés. Eh bien, quand le Seigneur dit que nous sommes des pécheurs, nous devons nous sentir concernés. Et alors, on est tellement concernés qu'on se voit perdus. Mais le Seigneur ne nous laisse pas dans cet état de culpabilité. Il nous montre quelle a été sa justice. Il n'a pas empêché l'homme de pécher, mais il a trouvé un moyen pour que le péché soit ôté et que l'homme ne soit pas condamné, mais que notre conscience soit tranquille parce que ça a été payé. Et c'est cela qui nous donne la paix. Ma conscience est tranquille, quelqu'un a payé pour moi. Et si quelqu'un a payé mes dettes, est-ce que le créancier peut me réclamer quelque chose? Non. Je n'ai pas payé moi, mais quelqu'un a payé pour moi, et c'est Jésus qui l'a fait. Alors, on est tellement reconnaissant que c'est lui qui devient notre vie. Comprenez-vous? Alors, donc ça répond quand même à cette question, d'où vient la foi et comment l'obtenir? Puisque c'est une grâce que Dieu nous accorde, je le crois. La vie de Jésus, c'est ma vie. Et alors, la deuxième question, la foi peut-elle augmenter? Vous avez la réponse dans l'Écriture. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Augmente-nous la foi. Je vous laisserai chercher la référence. Hein? Et puis, vous voyez que Jésus a dit souvent dans l'Évangile que les gens avaient une petite foi. Mais même en parlant d'une païenne, il a dit, je n'ai pas vu en Israël une si grande foi. Donc la foi peut être petite, la foi peut être grande, mais la foi peut augmenter. Et c'est ce que nous devons comprendre en lisant l'Écriture. Et alors, quelles sont les manifestations de la foi? Eh bien, là, vous lisez l'Écriture et vous voyez quelles sont ces manifestations de la foi. C'est toujours dans la vie de certains, comme nous le verrons cet après-midi, que vous voyez cela. Manifestation de la foi chez, disons, Nicodème. Ça a été progressif. Hein. Il a eu de nuit d'abord son entretien avec Jésus. Puis après, il n'est pas dit qu'il a suivi tout de suite Jésus. Mais dans une discussion du Sanhédrin, il a pris position. Quand on accusait Jésus, il a dit, vous connaissez le passage? Chapitre 7 de Jean. Aucun d'entre les chefs ou d'entre les pharisiens, est-ce qu'ils ont cru en lui? C'est une question qu'on posait là dans le Sanhédrin. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi est maudite. Nicodème, qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi juge-t-elle un homme avant de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il a fait? Et donc ses collègues lui répondent, et toi, es-tu aussi de Galilée? empierre-toi et vois qu'un prophète n'est pas suscité de Galilée. C'était vrai? Non, c'était faux. Parce qu'il y a eu un prophète en Galilée, à Gathéphère, à côté de Nazareth, un lieu que je connais. Et qui était ce prophète? Jonas. Et les grands savants de Jérusalem avaient oublié que Jonas venait de Galilée. Alors ils veulent reprendre. Vous voyez qu'on a besoin de lire l'Écriture. C'est dans les chroniques que vous avez ce détail. Mais quand vous devenez passionné de l'Écriture, comme mon grand-père l'était, dans son fauteuil, il lisait cela. Eh bien, mes amis, il y a un fond, il y a une base. Et on ne pouvait pas le troubler au sujet de son salut. Et c'était beau de le voir s'en aller. Notre mort doit être aussi à la gloire de Dieu. J'aime beaucoup cette expression des Juifs qui disent que Moïse est mort dans un baiser de Dieu. Hein? Parce qu'il est dit que sur la montagne, Dieu l'enterra. Hein? Moïse a expiré, et puis c'est Dieu qui l'a enterré. Il y a aussi les pompes funèbres. Ils s'occupent aussi de cela. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Mais vous voyez, il nous a donné le souffle, et puis il nous le reprend. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, c'est la Genèse, et puis ensuite il le retire. Alors, quelles sont les manifestations de la foi? Bien, c'est le fruit de l'esprit, c'est une paix totale, une paix qui se renouvelle tous les jours. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. La paix, il la donne et il nous la laisse. La paix avec Dieu, il l'a acquise à la croix en expiant nos fautes. Puis la paix dans les circonstances, c'est lui qui nous la donne. Vous avez une circonstance difficile, souvenez-vous qu'il est votre paix. Vous allez tout de suite à Jésus. Immédiatement, le contact avec le ciel. Et vous lui dites, Seigneur, je t'attends, j'attends ta délivrance. Et au lieu de murmurer, vous vous dites, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour m'en sortir? Et vous le verrez, vous en sortir. Ou alors, s'il veut nous reprendre, nous sommes d'accord avec lui. C'est pas une catastrophe. Pour Paul, il dit, je ne sais pas ce que je dois choisir. Hein. Si je dois vivre, il en vaut la peine. Mais si je dois mourir, c'est un gain. Car être auprès du Christ, c'est de beaucoup meilleur. Alors si c'est vrai, ça, je m'empare de cette parole et je n'ai plus peur de la mort parce que le Seigneur est là. Les manifestations de la foi, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Mais alors maintenant, quels sont les péchés contre la foi? Vous les avez dans l'épître, les épîtres à Timothée, et je vais simplement vous les citer. Comment est-ce qu'on pêche contre la foi? Il y a deux manières de pêcher contre la foi. On pêche par omission, et puis on pêche aussi par action. Par omission, par indifférence, quand on ne prend pas la peine d'étudier les vérités qu'il faut connaître. Quand on estime, par exemple, que toutes les religions sont bonnes, ou pire encore, qu'elles sont également fausses, et que dès lors, on vit indifférent, sans se soucier de Dieu qui a parlé, et auquel sa créature doit prendre garde. On pêche aussi contre la foi par respect humain, quand on craint de montrer sa foi. Vous êtes dans une période difficile, puis vous n'osez pas montrer votre foi. Matthieu 10, verset 33, Luc 9, verset 26. Mais maintenant, on pêche contre la foi aussi par action. Quand on refuse la grâce et les appels du Seigneur, parce que, voyez-vous, toute âme est appelée. Vous pouvez être sûr de cela. On pêche contre la foi quand on refuse les appels du Seigneur. Quand on s'attache à l'erreur, on sait que c'est faux, mais on s'y attache. Quand on n'agit pas en toute chose sur le principe de la foi. Voyez-vous, c'est en toute chose qu'on doit agir sur le principe de la foi. Quand on doute volontairement, Jacques 1, verset 5, que celui qui doute ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Ou en donnant en prise au diable qui est le père du mensonge. Jean 8, verset 44, c'est Jésus qui le dit, c'est le père du mensonge. Quand on renie une ou plusieurs vérités de la parole de Dieu, parce que ça ne nous plaît pas, quand on s'expose par de mauvaises fréquentations, en lisant des journaux et des conférences publiques, que nous aurions pu éviter. Quand on étale ses doutes dans des livres, dans des revues, des journaux et des conférences publiques. Alors, maintenant, en terminant sur ce sujet, pour que vous ayez quand même une idée de ce qui est dit dans les épîtres à Timothée, vous prenez la première épître et vous trouverez dans la première et la seconde épître cette expression touchant la foi. 1 Timothée 4.1, c'est l'apostasie de la foi qui est annoncée spécialement pour les derniers temps. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? C'est le rejet ouvert des vérités du christianisme. Apostasier de la foi, c'est s'en séparer, c'est s'en détourner. On rejette ouvertement la vérité reçue pour un temps, pour s'attacher à l'erreur que l'on prêche. Ces hommes, dit l'apôtre, ont leur conscience cautérisée, c'est-à-dire brûlée par un fer chaud, comme les criminels à qui l'on appliquait la marque de leur délit afin qu'ils fussent reconnus de tout le monde. Ces hommes portent dans leur conscience le sceau indubitable du mensonge et de la condamnation. J'ai commencé par l'apostasie. Oui, mais je m'excuse. Là. J'avais noté le naufrage d'abord. Chapitre 1, hein. Le naufrage quant à la foi, 1 Timothée 1,19. Il est la conséquence du rejet d'une bonne conscience. Pour avoir une bonne conscience, il faut toujours penser à quoi? Au sang du Christ. Le sang de Christ me purifie de tout péché. Mais un péché qui est confessé. Il y a eu la conviction. Alors, on fait naufrage quant à la foi, quand on abandonne l'autorité de la parole. Alors on blasphème ou l'on peut blasphémer. Ensuite, j'ai dit, l'apostasie de la foi, 1 Timothée 4.1, c'est l'abandon des vérités du christianisme. Troisièmement, 1 Timothée 5.8, il est parlé de renier la foi. C'est agir contrairement à la vérité que l'on connaît et dont on se réclame. C'est l'insoumission et la désobéissance à la parole de Dieu dans notre vie pratique. Celui qui tombe dans cet état, la parole dit, il est pire que qui? Qu'un incrédule. Renier la foi. Maintenant, 1 Timothée 5, 12, c'est rejeter notre première foi. C'est ne plus avoir le même attachement à Christ et à sa parole. C'est au fond l'abandon de quoi ? Du premier amour. Et au fond, qu'est-ce que c'est le premier amour ? C'est lui qui nous a aimé le premier, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, il a été versé dans nos cœurs. Alors au début, on est plein de cet amour pour Dieu, qui est son amour en nous. Mais voilà, on s'est habitué, et puis on abandonne le premier amour. Apocalypse 2, verset 4. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ensuite, 1 Timothée, c'est le cinquième, hein? 1 Timothée 6, versets 9 à 10, s'égarer de la foi. Si notre cœur s'attache à l'argent, au bien de ce monde, bien vite, nous serons sans direction, à côté de la vérité, perdant la jouissance de nos vraies bénédictions et nous transperçant de beaucoup de douleurs. Les soucis, la tromperie des richesses, les voluptés de la vie sont des épines qui étouffent la bonne semence et l'empêchent de porter du fruit à maturité. Marc 4, 19, Luc 8, verset 14. S'égarer de la foi. Donc c'est 1 Timothée 6, 9 à 10. Maintenant, une sixième expression, s'écarter de la foi. 1 Timothée 6, 20 à 21 et 2 Timothée 2, verset 18. Sous l'influence de l'erreur reçue par les objections d'une connaissance faussement ainsi nommé, soi-disant on est impressionné par les découvertes scientifiques. Mais quand on vous dit que ce sont des découvertes scientifiques, il faut savoir si ce sont des faits ou des hypothèses. Et la plupart du temps, ce sont des hypothèses. Les hypothèses d'une science faussement ainsi nommée, dit l'Écriture. Ce n'est pas la vraie science. Alors, ne vous laissez pas influencer pour vous écarter de la foi. Ne laissez pas votre foi être renversée. Vous serez à côté de la vérité vers laquelle vous tendiez. Et le septième point, qui est une expression tout à fait biblique, vous trouvez là, être réprouvé quant à la foi. 2 Timothée 3, 8 à 9. Réprouvé quant à la foi. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'état de ceux qui, ayant résisté à la vérité, ont l'entendement corrompu. Quand on résiste à la vérité, l'entendement se corrompt. La foi elle-même démontre alors leur état de perdition. La foi elle-même démontre l'état de perdition. Cependant, il est dit, ils n'iront pas plus avant, ils ne réussiront pas dans leur dessein, car leur folie sera manifeste pour tous. C'est ce qui est arrivé avec Hitler, par exemple. À un moment donné, la folie d'Hitler est devenue manifeste pour tous. Mais avant, eh bien, il y avait des pasteurs qui avaient marché parce qu'Hitler avait dit aux pasteurs protestants en particulier, si vous m'appuyez, eh bien, nous ferons une église nationale protestante. Et il donnera son appui. Puis alors on marche. C'est terrible, hein? Et il y avait des théologiens qui approuvaient cela. Alors, mes amis, c'est vrai que, comme plusieurs l'ont dit, il y a peu de temps, hein? Même si on est depuis 3 jours dans l'étude de la parole, on se dit on n'a fait qu'effleurer ces vérités, et j'aurais été peiné que vous pensiez que j'avais voulu couper. Mais j'ai posé les questions d'une façon un peu différente, mais nous y répondons quand même là. Hein. Quelles sont les manifestations de la foi? Quels sont les péchés contre la foi? On a répondu à ces questions-là. Vous retrouvez tout cela dans l'Écriture. Mais maintenant, les questions étaient plus précises. Avez-vous la foi? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos assiettes. Si vous avez donné une réponse, ou avez-vous eu dans votre vie une conviction de péché? Parce que vous voyez, ce qui arrive bien souvent, c'est que des gens viennent nous dire, vous savez, moi je me disais converti, hein, mais j'ai réalisé que je ne l'étais pas. Mais maintenant, j'ai eu cette conviction de péché. Et je sais de quoi je suis sauvé. Et on le voit, il y a une manifestation. Quelque chose de tout à fait différent. Avez-vous eu une conviction de péché? Je ne vais pas maintenant demander au groupe de répondre, mais je vous demande à vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous parler? Devant tous ici, pour répondre à cette question. Avez-vous la foi? Oui. Est-ce que pour avoir la foi, ben, c'est le Saint-Esprit qui opère, et qu'est-ce qu'il donne? Il convainc les hommes de péché. Mais c'est une conviction personnelle. Jeannine, quand tu es venue à ces réunions-là, est-ce que tu reconnaissais que tu étais une pécheresse?
Donc, une grande réforme, c'était la vérité. Aussi, surtout, des fois, on dit seulement, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, soit avec l'homme. Mais dans votre message, vous avez ajouté aussi, ça dépend du nez, que nul ne vient faire que par moi. Alors, je vous dis, si je veux voir le Père, que je passe par le Fils. Mais la conviction, c'est le signe.
Tu l'as eu après? Oui. Mais il y avait quand même un besoin. Il y avait une soif. Parce que si on n'a pas soif, on ne boit pas. Mais tu as bu la parole. Elle t'a rempli. Et comme Marie, il y a eu le Magnificat dans son cœur. Alors, ce que Paul nous dit au sujet de ce qu'il a fait à Éphèse, au chapitre 20 des Actes, il réunit les anciens d'Éphèse au verset 17 du chapitre 20, et il leur dit ceci. Quand ils furent venus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps depuis le premier jour que je suis arrivé en Asie, servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Comment je n'ai rien caché des choses qui vous étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant auprès des Juifs, auprès des Grecs, sur la repentance envers Dieu. Quand il était là, au milieu de ses païens, il annonçait la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus. Et puis après, ça ne suffit pas, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Il y a les trois choses, la repentance, la foi et tout le conseil de Dieu. Eh bien, la foi qui sauve, elle influence toute votre marche. Et si vous écoutez la parole, cette parole vous dit qu'en premier lieu, si vous voulez vraiment suivre le Seigneur, il faut renoncer à vous-même. Mais pourquoi vous devez renoncer à vous-même? Qu'est-ce qui peut nous faire renoncer à soi-même? Si vous vous trouvez parfaitement bon, est-ce que vous allez renoncer à vous-même?
Non.
Il faut que vous ayez une révélation de ce qu'est votre vie. Et c'est ça qui vous fait renoncer à vous-même. Mais ce n'est pas l'enseignement qu'on vous donne. On vous dit que vous devez avoir confiance en vous-même. On vous fixe en vous-même. Et c'est ça qui fait que les chrétiens sont si malheureux. Parce qu'ils sont toujours avec eux-mêmes. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Et c'est là la grande délivrance. Renonce à toi, dit Jésus. Et puis, accepte la vie de Jésus. Alors, le Christ n'est plus un Christ extérieur à notre vie, il devient intérieur. Ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Notre vie, elle est centrée maintenant sur Christ. Et alors, à mesure que nous avançons, eh bien, oui, nous avons une conviction de plus en plus certaine de péché et que nous avions besoin d'un sauveur. Et alors, ce sauveur, on apprend à l'aimer et toutes choses doivent être faites en lui. Est-ce que ça répond?
Justement, je crois que ça n'est pas tellement une réponse, parce que justement, cette semaine, nous avons parlé avec quelqu'un qui était ici.
L'église d'Éphèse. Le Seigneur souligne d'abord le bien qui s'est produit dans la première église. Dans le temps des apôtres. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Il faut reconnaître et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Deux fois, le mot repentance vient là. Maintenant, il y a l'église de Smyrne. Là, c'était l'église dans la persécution. Il n'est pas parlé de repentance, parce que dans la persécution, on est humble et on va vers le Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, verset 10. Voici le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est l'église, le temps de l'église dans la persécution. Ensuite, la troisième église, c'est l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. C'est le monde. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au temps où Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et se livrant à la débauche. De même, tu as aussi des gens qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes. Alors, verset 16, repens-toi donc, et je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La repentance, là aussi, est souligné. Si vous prenez l'église de Thyatire, qui semble vraiment représenter l'église romaine, verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, tes premières œuvres. Tes dernières vœux plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est le mélange. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa conduite. Et on peut dire que dans l'église romaine aussi, Dieu a donné du temps pour qu'elle se repente. Voici verset 22. Je jette sur son lit ainsi, dans une grande tribulation, ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, donc il y a aussi dans l'église romaine des vrais croyants, mais à vous, les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Il y a aussi dans l'église romaine des âmes qui sont vraiment au Seigneur, qui sont sauvées et qui s'appuient non pas sur leurs œuvres pour leur salut, mais sur l'œuvre que le Christ a accomplie pour eux. Mais quant à ceux qui enseignent et qui enseignent l'erreur, eh bien, c'est une terrible chose qui les attend. Parce que nous devrons tous répondre au Seigneur. Puis après, vous avez l'église de Sardes, que l'on pense être l'histoire du protestantisme. Il y a eu une réaction dans l'église romaine des catholiques se sont aperçus qu'on s'était éloigné de l'écriture et ils ont protesté. Les protestants au début, qu'est-ce que c'était ? Des catholiques qui voulaient revenir à l'écriture. Et alors, au début, c'était magnifique, mais ils ont été persécutés. Rappelle-toi comment tu as reçu. Sois vigilant, affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites en toi. Au début du protestantisme, c'était merveilleux. Mais ensuite, le protestantisme est tombé dans le libéralisme, dans le rationalisme, spécialement en Allemagne, et puis on ne croyait plus que ce qui était raisonnable, soi-disant, dans la parole. Verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur se revêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père. Puis ensuite vous avez l'église de Philadelphie, qui est l'amour des frères, qui a peu de force, peu de puissance, mais qui n'a pas renié sa parole. Et le Seigneur lui dit, verset 8, je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Et cette porte, c'est la porte de la foi. Nul ne peut la fermer parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié ton nom. Et c'est le caractère que nous devrions avoir, nous les croyants. Voici, je te livrerai les gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Voilà ce qui doit nous caractériser, les uns et les autres. Je te garderai, moi, de l'heure de l'épreuve. Est-ce que vous le croyez? C'est le Seigneur qui le dit. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que nous sommes destinés à passer par l'heure de l'épreuve? Il y en a qui vous le disent. Hein. Mais si vous savez vous repentir, eh bien, le Seigneur agira. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ce que l'on peut perdre, ce n'est pas le salut, c'est la couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne. Il est parlé de la victoire là aussi. Dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès du Père. Et puis alors, vous avez la dernière Église qui est Laodicée. L'Église des derniers temps, enfin l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui se réclament encore de Jésus, mais qui sont satisfaits. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, c'est cela que nous donne la repentance. On se rend compte que nous sommes pauvres, misérables, aveugles, nus. Et que nous avons besoin, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Alors, si nous nous laissons corriger, le Seigneur nous bénit. Aie donc du zèle et repens-toi. Quand on est en contact avec la parole, eh bien, il nous donne du zèle, et puis, il nous maintient dans l'humilité. Nous allons nous arrêter là. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose?